Est-ce que j'ai bien lu ta note?
Oui.
Parce que tu...
Pince-toi, là. Pince-toi.
C'est vraiment, là, tu dis, avec un point d'interrogation, cependant, est-ce que c'est, pour 2020, le moment de faire une pause réelle?
Hey, là, il y a des institutions financières qui vont me regarder, qu'est-ce que tu dis là? Je te donne une preuve par l'exemple.
Vas-y.
Disons qu'en 2020, tu gagnes... En 2019, tu gagnais 60 000. Puis en 2020, à cause de la pandémie, t'as perdu des revenus, t'es tombé sur la PCU, puis finalement, à la fin de l'année, ton revenu annuel est de 44 000. Mais là, ça a fait baisser ton taux d'imposition marginale de 37,12 à 27,53. Et donc, ce ne sera pas super rentable par rapport à l'année d'avant de faire une déduction réelle. Alors, pour ceux qui veulent absolument cotiser, parce que tu peux cotiser quand même, c'est une bonne idée, là, parce que tu auras l'argent pour les années suivantes, il se peut que tu fasses le calcul dépendant de ta situation puis te dire « je vais cotiser à mon REER, mais je ne déduirai pas mon REER en 2020 ». Parce que l'an prochain, je vais retomber à 65, 70 000 et donc, je vais déduire une plus grande partie d'impôts.
Attends, je ne suis pas sûr de te suivre, par exemple.
Mais disons que quand tu fais une déduction REER, ça élimine une partie de l'impôt que tu as payé.
Mais si je contribue, je ne suis pas obligé de le déduire.
Non. Et ça,
ah ben ça,
Paul, je suis content que tu sois surpris parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que tu peux contribuer à ton REER pendant des années sans déduire, puis tu déduis à l'année qui te convient. Et moi, c'est
une
erreur.
Tu m'apprends quelque chose.
Moi, c'est une erreur que j'ai faite comme étudiant. J'avais travaillé pas mal fort dans une usine, puis je voulais tellement pas payer d'impôts que j'avais déduit mes REER, alors que j'aurais dû contribuer et attendre pour déduire plus tard. Et c'est une bonne année aussi, Paul, pour se questionner, est-ce que je devrais pas à la place, si mon taux d'imposition marginale diminue, en profiter pour contribuer à mon CELI? Parce que là, le problème des parents qui sont aujourd'hui de 50, 60 ans, c'est qu'ils n'ont pas eu le CELI quand ils étaient jeunes. Donc, ils sont martelés par le marketing bancaire et ils se font dire à leurs enfants « Hey, oublie pas ton REER, ton REER, ton REER. » Mais c'est pas ton REER, faut que tu parles, c'est de l'épargne. Et donc, c'est peut-être une année de CELI, une année pour dire « Sais-tu quoi? Vu que ton taux d'imposition a baissé puis que tu as un peu de liquidité parce que tu as moins de revenus, peut-être que c'est le temps d'en mettre dans ton CELI parce que quand tu vas être rendu plus vieux, ça va être de l'argent net d'impôt que tu vas pouvoir utiliser pour ton toit, ta voiture, ton voyage à Disney. » Ou investir dans Disney. Bon, peu importe. Donc, non, mais c'est une année pour se questionner fiscalement sur son REER.
Si tes revenus ont baissé.
Si tes revenus ont baissé, effectivement. Et aussi, Paul, j'ai des gens qui me disent, moi, Pierre-Yves, je suis rendu à 200-300 000 de REER, puis j'ai un petit régime de retraite. Je commence à trouver que mon REER est pesant parce qu'au moment du décaissement, je vais payer de l'impôt. Et donc, il y a aussi une réflexion, puis là, pour des gens qui ont 40, 50 ans, est-ce que vous êtes en train de surcotiser à votre REER par rapport à votre CELI ou d'autres mécanismes que vous avez? Par exemple, si tu es un travailleur qui est incorporé, il se peut que tu juges que le REER ne soit pas quelque chose qui soit nécessaire pour toi parce que tu vas utiliser ta compagnie pour décaisser plus tard. Mais c'est une réflexion fiscale qu'on doit avoir.
OK. Parle-moi des indices boursiers.
Je ne sais pas si tu es allé voir tes placements, mais n'importe qui est allé voir ses placements dans les dernières 24 heures, se disent « Oh, OK, là, les derniers jours ont été payants. » Oui, parce que la bourse s'excite parce qu'il y aurait un vaccin.
Un deuxième,
efficace à 94,5 qui est lié à une compagnie qui s'appelle Moderna. Évidemment, c'est une compagnie qui est comme toutes les biotech en recherche et développement, c'est-à-dire elle fait des pertes comptables parce que ses revenus sont des investissements. Disons que les sources de liquidité sont des investissements, il y a des subventions et des collaborations, mais il n'y a pas encore de vente de médicaments et, ou de solutions. Et l'entreprise vaut quand même 35 milliards en bourse. Alors, ça démontre à quel point il y a des entreprises, puis à Montréal, il y avait ça au début des années 2000, des biotech à perte en recherche et développement qui cherchaient la solution à quelque chose et qui vivaient de l'espoir de trouver la solution.
Mais je pense que le gouvernement américain, le président Trump, a mis 1 milliard dans ce projet de recherche.
Et d'ailleurs, quand tu regardes le dernier trimestre, il y a eu 146 millions de subventions juste en 3 mois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est voir tout l'effet boursier. Comme on parlait récemment, les compagnies technologiques comme Zoom ont perdu 26% depuis un mois parce qu'on pense et on croit un retour à la normale. Mais ce qui est spectaculaire, c'est le S&P 500, l'indice des compagnies américaines, est rendu à plus de 3600 points alors qu'avant la pandémie, on était à moins de 3400 points. Alors présentement, la bourse américaine atteint des sommets et vaut plus cher qu'avant la pandémie, malgré la pandémie. Et c'est ça qui commence à être spécial. Puis on peut se dire, comme investisseur, voilà une bonne leçon. Parce que si on regarde tout ce que fait descendre nos placements au cours des années. La bulle techno. Si on voit la bulle techno, là, avant de reprendre, ça a pris 6-7 ans. La crise financière, ça a pris 4 ans. La COVID, ça a pris quelques mois. Alors, ça nous démontre comment les cycles boursiers sont volatiles, sont rétrécis, et comment, finalement, ceux qui, par peur, quittent la bourse au moment où ça plante, exemple 15-16 mars de cette année, et vont dans des placements sécuritaires, payent le prix dans ce qu'on appelle un coût de renonciation. On renonce à du rendement. Donc, si vous n'avez pas 70 ans ou 60 ans, puis que vous avez 22 ans, puis vous avez 5 000 de placements, puis quand ça plante, vous sortez votre argent, ne faites pas ça sur votre vie. À chaque fois, vous allez payer le fort prix. Il faut accepter de perdre. Et la crise qu'on vit actuellement est un bon exemple. Si vous avez placé de l'argent au Canada seulement, bon, évidemment, ça a moins remonté. On n'a pas réatteint le montant du début de l'année ou du sommet. Mais ça va quand même mieux. Alors, on voit très bien que l'histoire nous donne toujours raison à dire « Ne touchez à rien, gardez votre stratégie de placement et acceptez que le vent tourne parfois, mais il finit toujours par se calmer et le soleil revient à l'horizon. »
Wow!
C'est beau, hein?
C'est très beau.
C'est beau.
Et je t'en remercie.
Oui. Donc, pense à ton REER, là.
Passe une belle journée.
Salut.
Salut. 7h21.